journal, Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, une crise et deux images. En Europe, les rescapés de l'Aquarius parlent pour la première fois, alors que les dirigeants européens cherchent toujours la solution à la crise migratoire. Et puis aux États-Unis, ce sont des enfants détenus à la frontière mexicaine qui provoquent l'indignation. Plus de 2000 mineurs privés de leurs parents par l'administration Trump. Situation inacceptable pour l'UNICEF que vous entendrez. Une journée douche écossaise pour les syndicats de fonctionnaires. Ils n'ont pas obtenu d'augmentation générale hier, mais certaines carrières seront bien revalorisées. La politique, le grand déballage à droite. Au lendemain de son éviction, Virginie Calmels dénonce la ligne populiste et identitaire prônée selon elle par Laurent Wauquiez. On écoutera l'ex numéro 2 des Républicains. Et à 8h20, Nicolas, vous recevez l'encore numéro 3 du parti.
Oui, il est deuxième vice-président. Effectivement, ça doit faire numéro 3. Guillaume Pelletier, député de Loire-et-Cher, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la grève à la SNCF jouera-t-elle les prolongations durant les grandes vacances? Réponse sans doute aujourd'hui. La Coupe du Monde de football, on évoquera les relations entre Vladimir Poutine et l'équipe russe qui joue ce soir. Et puis les jeunes qui aiment toujours autant la lecture, voilà qui rassurera sans doute quelques parents. France Inter s'est procuré la dernière enquête du Centre National du Livre. Pendant 8 jours, ils n'ont été qu'une foule entassée sur le pont d'un bateau ballotté par les flots au rythme des hésitations de l'Europe. Mais les passagers de l'Aquarius ont désormais un avenir en Espagne où ils ont fini par accoster avant-hier. C'est là que l'envoyé spécial de France Inter a pu enfin en rencontrer quelques-uns. Il parle pour la première fois à l'image de ce migrant ghanéen. Il raconte ce qui l'a poussé à prendre la mer et à risquer sa vie pour rejoindre l'Europe. Reportage près de Valence en Espagne, Yann Gallic.
C'est un immense complexe sportif à une trentaine de kilomètres de Valence, un bâtiment perché sur une colline entouré de grillages et protégé par la police. Ici, les rescapés de l'Aquarius peuvent enfin se reposer au calme. Un soulagement pour Ibrahim, ce jeune Ghanéen de 20 ans, raconte son naufrage en Méditerranée après avoir fui la Libye, un pays où il travaillait depuis 3 ans comme ouvrier sur des chantiers de construction.
Quand j'étais en Libye, on me traitait comme un esclave. Même si je travaillais pour eux, les Libyens refusaient de me payer et ils me menaçaient avec des armes. Voilà ce qu'ils faisaient là-bas. En ce moment, il y a beaucoup de violence en Libye, des combats, des gens qui se font tuer. C'est très dur.
Dans ce centre d'hébergement provisoire, Ibrahim est pris en charge par la Croix-Rouge, loin des violences et des persécutions.
Je n'ai nulle part où aller. Quand l'Espagne a accepté de nous accueillir, j'étais très heureux. Que Dieu bénisse les Espagnols, car ils prennent soin de nous ici. J'ai un lit, je peux me reposer, faire ma toilette, on me donne à manger. L'Espagne est le meilleur pays, celui qui m'a ouvert ses portes. Je veux rester ici.
Comme tous les migrants de l'Aquarius, Ibrahim a obtenu un permis de résidence de 45 jours, un délai qui lui permettra de faire sa demande d'asile, avec l'espoir de commencer une nouvelle vie en Espagne. À Valence, Yann Gallic, France Inter.
Et si Ibrahim, qu'on vient d'entendre dans ce reportage, veut rester en Espagne, c'est en France que la moitié des passagers de l'Aquarius souhaitent demander l'asile. Des agents de l'OFPRA sont arrivés sur place hier pour lancer les démarches. C'est lui justement qui avait dit non à l'Aquarius la semaine dernière en Italie. Matteo Salvini s'offre une nouvelle polémique. Le ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue d'extrême droite veut lancer un recensement des Roms présents sur le territoire pour mieux expulser tous ceux qui n'ont pas de papier à Rome. Mathilde Imberti.
Matteo Salvini veut expulser les Roms vivant en Italie sans autorisation, en procédant d'abord à un recensement de cette population, a détaillé le ministre de l'Intérieur dans une interview à une télévision de sa région, la Lombardie. Expulser les Roms étrangers en situation irrégulière, pas les Italiens bien entendu, que malheureusement tu dois garder à la maison, ajoute Matteo Salvini. Ces propos ont provoqué une levée de boucliers. Paolo Gentiloni, ex-président du Conseil du Parti démocrate, tweet « Hier les réfugiés, aujourd'hui les Roms, demain les fusils pour tous ». L'association qui s'occupe des droits des Roms en Italie relève tout simplement qu'un recensement sur base ethnique est interdit par la loi et que de toute façon les Roms sont soit pour la moitié d'entre eux italiens, soit roumains, donc européens, soit apatrides de l'ex-Yougoslavie, donc inexpulsables. Au vu de la polémique, Matteo Salvini a détaillé son projet, défendre avant tout les enfants roms pour qu'ils aillent à l'école plutôt que d'être formés à la délinquance. Des précisions qui n'ont pas rassuré les premiers intéressés. Les représentants de la communauté rom ont demandé en urgence un rendez-vous au ministre. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
En Europe. Il a donc fallu l'image de l'Aquarius pour relancer le débat sur les migrants aux États-Unis. C'est une vidéo choc qui est en train de devenir le symbole de la politique migratoire de Donald Trump. Des enfants qui pleurent derrière des grillages, qui réclament leur père ou leur mère, des enfants placés en détention et séparés de leur famille parce que leurs parents ont tenté d'entrer illégalement aux États-Unis. C'est un site d'investigation qui a volé ces images. 2300 enfants vivent aujourd'hui dans ces centres, principalement au Texas, au nom de la tolérance zéro. Situation inacceptable et contraire à toutes les conventions internationales. C'est le directeur général de l'UNICEF en France, Sébastien Lyon, qui l'explique à Christian Chesneau.
C'est une réaction d'indignation parce que c'est un traitement cruel et inhumain qui est réservé à ces enfants qui viennent de subir un parcours semé d'embûches quand ils arrivent aux États-Unis et se retrouver séparés de leurs parents, c'est évidemment pas dans leur intérêt. Bien sûr, c'est une violation des textes internationaux. Le fait de séparer les enfants des parents est un, et c'est pour ça que ça suscite autant de polémiques aux États-Unis. C'est une décision qui n'a pas de fondement juridique, bien sûr, mais qui est aussi extrêmement traumatisante pour les enfants. On sait que ça peut avoir des conséquences psychologiques graves pour eux, et puis que ça augmente les risques, tout simplement, des tentatives de fuite, de suicide, et le recours à de plus en plus de passeurs et de voies illégales. Moi, je ne pense pas que ça va dissuader les migrants de passer avec leurs enfants, parce que tout prouve que, malheureusement, ce type de mesure n'a que des effets néfastes pour les enfants, et que les enfants ne devraient pas être utilisés comme des arguments dans une politique migratoire.
Pas question de changer de politique, a déjà répondu Donald Trump, malgré la fronde des démocrates et des First Lady. Après Melania Trump, qui a fait entendre son indignation avant hier. Ce sont trois ex-premières dames qui l'ont rejointe, Michelle Obama, Laura Bush et Rosalynn Carter. Bernard Guetta y reviendra juste après ce journal. Et puis un tout dernier chiffre pour dire que cette crise n'est sans doute pas finie. 68 millions d'êtres humains ont été déplacés de force l'an dernier sur la planète, indique ce matin un rapport de l'ONU. C'est 3 millions de plus que l'an dernier, c'est un niveau jamais atteint et la moitié de ces déplacés sont des enfants.
Il est 8h07, faut-il bloquer les gares les jours de grand départ?
Question du jour à la SNCF, les syndicats vont tenter d'accoucher d'une position commune sur la suite à donner au mouvement censé s'arrêter fin juin. La CGT cheminots souhaite le prolonger en juillet avec des débrayages les 6 et 7 notamment. C'est le premier week-end des vacances scolaires. Mais les syndicats dits réformistes ont le pied sur le frein. L'UNSA et la CFDT vont consulter leurs instances ce matin pour prendre la température des troupes et à entendre justement le patron de l'UNSA, Roger Dillenseger. On se dit que le front syndical a sans doute du plomb dans l'aile.
Nous on a suivi, on s'est inscrit dans un mouvement jusqu'au 28 juin. Aujourd'hui, ouvrir un nouveau mouvement, en particulier pendant la période estivale, où en termes de négociations internes, peu de choses vont se passer. Nous, on va continuer à mettre la pression, notamment sur la négociation de la convention collective, parce que c'est bien là que le terrain de la négociation va se poursuivre. Mais aujourd'hui, il faut vraiment s'interroger si, durant le mois de juillet-août, la poursuite de la grève est bien utile syndicalement et même pour le bien des cheminots. On s'interroge vraiment.
La grève l'été, ce n'est pas la solution pour vous.
À l'heure qu'il est, je ne suis pas convaincu que ça fera avancer les débats.
Voilà le secrétaire général de l'UNSA avec Philippe Lefébure. La grève qui s'éloigne en revanche à Air France. Elle devait débuter samedi et durer 4 jours. Mais l'intersyndicale lève son préavis. Il pourrait tout de même y avoir quelques perturbations. Car le deuxième syndicat de pilotes, le SPAF, fait cavalier seul et maintient son appel à la grève. Ils n'en attendaient pas grand-chose. Ils n'ont pas été déçus. Les syndicats de fonctionnaires sont ressortis presque bredouilles de leur réunion à Bercy hier. Ils ont eu la confirmation que leur point d'indice resterait gelé l'an prochain. Pas d'augmentation générale des salaires donc, mais le gouvernement fait tout de même un geste, il relance la réforme des carrières qui avait été mise en place sous François Hollande puis suspendue depuis un an. Delphine Simon.
La réforme des carrières des fonctionnaires, promesse de François Hollande, avait été gelée par l'actuelle majorité par mesure d'économie. Elle est donc confirmée. Ainsi, la rémunération brute d'un infirmier de catégorie A va augmenter de 1246 euros par an, selon Bercy. Une hausse de 857 euros pour un gardien de la paix ou encore de 1310 euros pour un professeur certifié. Le coût de la mesure s'élève à 840 millions d'euros l'an prochain, raison pour laquelle il n'y aura pas d'augmentation générale, justifie Olivier Dussopt, le secrétaire d'État chargé du dossier. En 2019, les fonctionnaires devront donc se contenter de mesures catégorielles, la revalorisation de leurs frais de mission, attendus depuis 10 ans, ou encore l'assouplissement du compte épargne-temps. Les jours monétisés seront revalorisés de 10 euros, mais tous les agents n'iront pas droit, relèvent les syndicats, des mesures qui ne garantissent pas non plus l'évolution du pouvoir d'achat, alors que l'inflation repart, plus 2%. 1% au mois de mai, selon l'INSEE.
Delphine Simon.
Guerre des chefs et guerre des mots chez les Républicains.
Elle avait réservé sa première réaction aux 20h de TF1 hier soir au lendemain de son éviction. Virginie Calmels, l'ex numéro 2 des Républicains, en a remis une petite louche sur Laurent Wauquiez.
Il a rompu le pacte de confiance entre nous en travaillant seul. Aucun débat préalable à toutes ces prises de position successives. Première chose. Deuxième chose, il ne suit pas les recommandations de ce président de cœur qui est Nicolas Sarkozy, qui prône le rassemblement et qui l'a fait lui-même. Et puis, il l'impose, surtout, à la famille de la droite, une ligne unique, une ligne qui est en fait identitaire et populiste. Et ce n'est pas ça la famille de la droite. Pour moi, elle doit être équidistante entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ne pas pencher d'un côté plutôt que de l'autre.
Une ligne identitaire et populiste, dit Virginie Calmels, elle a choisi l'isolement, lui répond à distance Laurent Wauquiez dans un courrier adressé aux adhérents du parti. La tendance se confirme et c'est une bonne nouvelle. Le nombre de morts sur les routes a baissé de plus de 8% le mois dernier, dernier chiffre de la sécurité routière. La tendance est la même sur un an. Tous les indicateurs sont en baisse, à une exception près, les conducteurs de scooters et de petites motos dont la mortalité a augmenté de 13% en un an. C'est l'étape indispensable pour tous les sinistrés des intempéries de ces dernières semaines. Une première réunion se tient aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour décider des communes qui seront reconnues en état de catastrophe naturelle. Elles sont 600 à le demander, dont celle de la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne, où s'est rendu Sébastien Sabiron.
Trois crues en une semaine, un pont qui lâche lors de la troisième et plus d'un mètre d'eau dans le salon de Gervaise.
Il n'y a plus rien. Il nous reste trois lits et deux armoires.
Depuis 10 jours, cette retraitée et son mari sont hébergés chez leur fils, sans aucune visibilité pour la suite.
C'est très très difficile au niveau des assurances, pour la bonne raison, c'est qu'ils nous laissent des répondeurs. J'ai mis une journée et demie à avoir le premier contact pour voir comment on voit un expert.
Pour que Gervaise soit indemnisée, il faudra que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu dans la commune. Le maire Yves Jauneau en a fait la demande au bout de 48 heures.
En ce qui concerne les administrés, c'est très important parce qu'ils peuvent avoir des remboursements de leurs frais dans leurs locaux, etc. Par contre, les communes, ça n'apporte rien dans un premier temps, mais ça permet d'être prioritaire au niveau des subventions qu'on peut obtenir par l'État, par le département et la région.
Hormis ces hypothétiques subventions, la municipalité devra financer elle-même la réparation de la voirie. 1 300 000 euros et pas question d'augmenter les impôts dans cette commune la plus pauvre du département. Yves Jauneau.
Si vous voulez, on est obligé de réagir par rapport à notre budget, donc on sera peut-être obligé de retarder certains travaux qu'on voulait faire et encore on a beaucoup engagé les travaux dans l'investissement qu'on avait prévu cette année, donc il va falloir trouver des financements et des emprunts pour faire les travaux le plus vite possible.
Selon le ministère de l'Intérieur, les deux tiers des départements français ont été touchés par les intempéries. Le montant global des dégâts n'a pas encore été évalué.
Et à 8h12, place au foot. Les Anglais ont eu chaud hier soir à la Coupe du Monde.
Tenus en échec par la Tunisie, ils s'en sortent sur le fil grâce à un but à la dernière minute. Score final 2-1 et un ouf de soulagement dans tous les pubs du pays. Trois matchs au programme aujourd'hui. À 14h, Colombie-Japon. À 17h, Pologne-Sénégal. Et à 20h, un match couperet déjà entre la Russie et l'Égypte. Bonjour Franck Ballanger.
Bonjour Marc.
La Russie, pays hôte, elle a largement remporté le match d'ouverture. Et tout doucement, l'équipe nationale est en train de gagner le soutien du public et d'un certain Vladimir Poutine.
Vous pouvez chercher dans tous les magazines, sur internet et même sur le darknet, vous ne trouverez pas une seule photo de Vladimir Poutine avec le maillot rouge de l'équipe de Russie de football. Il est très simple d'attraper des images ou des vidéos du président en train de pêcher torse nu, de Vladimir en tenue de judoka, de Poutine face à un ours et du président Vladimir Poutine avec le maillot de l'équipe russe de hockey, mais pas avec celui de la Zbornaïa, le surnom de la sélection russe de foot. La victoire 5-0 contre l'Arabie Saoudite a un peu changé la donne. Dès après le match, en pleine conférence de presse, Stanislav Tcherchesov, l'entraîneur national, a ainsi reçu un coup de fil. À sa tête, tout le monde a compris que c'était important. Il s'est absenté quelques secondes et lorsqu'il est revenu, il a expliqué qu'il venait de recevoir les félicitations du patron du Kremlin pour la victoire. Avant de préciser, il nous a dit que nous devions continuer de cette manière.
Alors depuis le début de la compétition, Franck, on entend que cette équipe de Russie avance dans une sorte d'indifférence polie. Est-ce que ça change ?
Ce qui se passe en fait, c'est que comme partout dans le monde, quand les résultats sont là, Marc, le public suit, donc ça commence à prendre. On ne voit encore que très peu de maillots rouges, mais le russe de la rue a envie d'y croire. Écoutez ce qu'en pense Andrei, il est fan du Rotor Volgograd et désormais un peu de la Zbornaïa.
Le premier match s'est très bien passé. Personnellement, je ne sais plus depuis quand notre équipe a marqué autant de buts dans une même rencontre. Et des beaux buts en plus. C'était impressionnant. Maintenant, je crois que le plus important, c'est que notre équipe ne se relâche pas trop. Ce serait bien qu'ils montrent encore du beau jeu contre l'Égypte, mais le plus important, c'est le résultat.
Ce qu'on comprend, en fait, c'est que les Russes sont presque étonnés que leur équipe soit si bien entrée dans son mondial. Désormais, donc, le sentiment qui domine, avant de rencontrer l'Égypte ce soir à Saint-Pétersbourg, c'est la peur que le château de cartes s'écroule. Dimitri, lui, applique la méthode de la pensée positive. Je vais bien, tout va bien, la Russie va bien.
Nos gamins, ils vont le faire contre l'Égypte. Tout le pays croit en cette équipe. Ils réussiront, j'en suis certain. On ne marquera peut-être pas 5 buts, mais 2 ou 3. On va gagner contre l'Égypte.
Avant le début de la Coupe du Monde, Vladimir Poutine n'a pas dit que la Russie allait remporter la compétition. Il a seulement affirmé que la Sbornaïa allait se battre jusqu'au bout. Si Stanislav Tcherchessov veut recevoir d'autres coups de fil du président, il va devoir faire passer le message à ses joueurs.
Franck Ballanger, merci.
Qui a dit que les jeunes délaissaient les livres?
Alors, on les dit accros aux écrans, mais ça ne les empêche pas d'ouvrir aussi des romans. C'est le Centre National du Livre qui a sondé les 15-25 ans sur leur goût et leur pratique de la lecture. Résultat, les jeunes lisent en moyenne un peu plus d'un livre chaque mois. Ilana Mor-Youssef.
Les 15-25 ans ont lu en moyenne 13 livres au cours des 12 derniers mois. 86% d'entre eux se disent lecteurs. Un résultat qui tranche au vu des discours alarmistes sur les jeunes et la lecture. Vincent Monadet, président du Centre National du Livre.
On se lamente à tort, mais comme toutes nos enquêtes sur le lectorat le montrent, on a des inquiétudes sur le lectorat par rapport aux grands lecteurs et par rapport au temps de lecture. Et l'enquête, elle témoigne de ça, puisque si les jeunes lisent, effectivement, c'est très loin dans leur pratique derrière Internet. Et les smartphones.
81% des jeunes interrogés lisent en moyenne 6 heures par semaine, mais ils passent 14h50 par semaine sur leur smartphone. La lecture n'arrive qu'au 9e rang de leurs activités de loisirs. D'ailleurs, que lisent-ils?
Ils ne lisent pas forcément des livres qui sont habituels pour les adultes, puisqu'ils plébiscitent la fantaisie, le fantastique, le polar, la science-fiction. Les trois premiers arrivant en tête étant Harry Potter, 50 nuances de Grey et After d'Anatode.
Nul doute que les éditeurs vont s'emparer des résultats de cette étude pour satisfaire un public qui est l'objet de toutes leurs attentions.
Voilà, 13 livres par an chez les 15-25 ans, pas si mal que ça Nicolas.
Ouais, c'est
un
très
par
bien.
Jour quasiment, mais vous êtes hors catégorie.
Merci Marc Fauvel.